Bonjour à tous et bienvenue dans L'Art, c'est les autres. Moi, c'est Leslie Lucier et je fais partie du réseau des artistes Pigeons et Hirondelles qui est basé dans Lyon. Dans ce podcast, je vais à la rencontre des acteurs du monde de l'art. Ce sont des passionnés qui vont nous aider à décrypter les milieux de l'art contemporain. Pour tous ceux comme moi qui ont envie d'y évoluer. Alors mon objectif, ça va être de remettre mes connaissances, mes jugements en jeu, grâce à ces mentors qui, pendant quelques dizaines de minutes, vont nous donner de précieux conseils, vont nous donner leur philosophie et tout ce qu'ils mettent en place dans leur quotidien et qu'on pourra appliquer, pourquoi pas, à nos propres projets. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à commenter les épisodes sur votre appli de podcast. C'est ce qui me donne le plus envie de continuer. En tout cas, merci d'être là et je vous laisse avec l'épisode de la semaine. Ben, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui, je peux me présenter. Donc, je m'appelle Charles Calamel, je suis à la fois musicien et universitaire. Je suis donc contrebassiste d'un côté, contrebassiste de jazz et sociologue de l'éducation. J'aime pas trop dire sociologue de l'éducation, mais je dirais plutôt chercheur, enseignant-chercheur en sciences de l'éducation.
Alors du coup, là, on est à ACM. Alors ouais. Qu'est-ce que c'est ACM ?
ACM, ça veut dire artiste créateur en mouvement. C'est donc une structure associative qui porte des projets d'artistes, qui porte des projets de recherche et ouais. Qui est un vivier d'artistes. Ils sont des artistes du spectacle vivant et qui peuvent éventuellement tourner avec d'autres artistes, peintres, sculpteurs, photographes, etc.
Et vous êtes plusieurs à avoir monté ça, c'est ça ?
On est deux, en fait, à l'organisation, au développement de ça.
Ouais.
Mais il y a, dans le bureau, il y a énormément de gens qui gravitent autour et qui profitent aussi de cette structure. Parce que, mine de rien, quand les musiciens passent par ACM pour faire monter leur projet, alors ils peuvent être rémunérés sous forme de cachet, etc. Donc il y a de l'activité spectacle vivant, en fait. On a la licence d'entrepreneur de spectacle, on a tout le service comptabilité qui fait qu'on peut... rémunéré en cachet.
Ok, et c'est venu de quoi cet assaut ? Alors, t'es musicien, c'est ça ?
Oui, c'est venu de ça, mais en fait, très vite, en fait, on a développé pour le ministère du Travail des formations à destination des artistes. C'est-à-dire, en fait, on voulait leur proposer d'élargir leur champ de compétences.
Mmh.
En gros, comment un artiste, quel qu'il soit, pouvait, par exemple, développer des projets dans le cadre des milieux scolaires. Et périscolaire. Ouais. Donc comment ils pouvaient aller faire chanter les gosses à l'école, aller faire du dessin à l'école, etc. Et donc développer des activités. Et ça a duré de 94 à 2005, je crois, qu'on a fait ça. On a accompagné des artistes avec des formations plus ou moins longues, dont une notamment qui a été très bien soutenue et financée par la région Île-de-France, qui a duré 9 mois.
Okay.
Et là, on avait embarqué 15 artistes dans la construction de projets pour élargir leur champ de compétences, en fait.
Ah oui, ok. Mmh.
Et ça a débouché ensuite sur un projet de recherche sur les collèges, notamment pour les jeunes non francophones primo-arrivants qui devaient en un an intégrer une classe d'âge et de niveau.
Ok.
Et donc, ils devaient apprendre le français en une année et s'intégrer dans une classe qui leur correspondait. Ça a duré 3 ans, en fait, dans un collège où il y avait 8 heures d'intervention artistique dans la semaine. Donc il y avait des partenariats avec le Macval, il y avait des partenariats avec le Studio 66 de Champigny, avec le Musée du Louvre, avec tout un tas de structures. Et puis des artistes qui venaient travailler avec eux, l'intégration culturelle, sociale et artistique. Et,
okay.
et artistique de ces jeunes.
Okay.
Et donc ça a créé pas mal de choses, ça. C'était intéressant. C'était une recherche qui a été soutenue par la Fondation HSBC pour l'éducation, par la Fondation RATP, qui était tolérée par l'Éducation nationale.
Mais ils parlaient français à la fin, des 9 mois ?
Ah oui, bien sûr. Bon, en fait, ils parlent français au bout de 2 mois. Hein. Mais il y a des moments, il y avait des trucs... Sur l'intégration sociale, c'était assez intéressant de voir ça. C'est-à-dire que Entre les jeunes et les artistes, il s'est passé des trucs humainement. Et puis, il se passait aussi des choses avec certains professeurs, entre l'élève et le prof. Il y avait un soutien aussi humain, très humain à l'intérieur de ça. En fait, le résultat de cette recherche, curieusement, ça avait dit, est-ce que les pratiques artistiques favorisent, facilitent l'intégration scolaire des jeunes? Oui, de manière indiscutable. Est-ce que ça facilite l'intégration sociale? C'est oui, indiscutablement. Est-ce que ça facilite l'intégration culturelle? C'est non. C'est-à-dire qu'en fait, sans nous, sans le collège, sans l'école, ben les gosses vont pas au musée, vont pas
même après
à la culture, même après ça.
Ouais.
Parce qu'en fait, ils y emmèneront pas leurs parents, leur famille. C'est comme si c'était du domaine de l'école. Et donc ça c'était un truc qui était inattendu, ça.
Et ouais.
Dans le résultat de la recherche. Autant la relation humaine, ça facilitait l'intégration scolaire, autant l'intégration scolaire était facilitée par les pratiques artistiques et la rencontre avec les arts. Par contre, l'éducation culturelle, non.
Okay.
Ils vont pas. On leur a montré le chemin pour aller au musée, pour aller au cinéma, pour aller je sais pas où, au théâtre, pour aller au conservatoire aussi, on était allé faire de la musique. Donc ils ont toujours trouvé ces déplacements vachement intéressants. Mais est-ce qu'eux, ils iraient d'eux-mêmes? C'était non.
Ah oui, d'accord. Donc dans un cadre obligatoire, c'était mieux ça qu'autre chose, mais...
Oui, je dirais, c'était pas tellement obligatoire, c'était plutôt accompagné, en fait. Parce que d'eux-mêmes, ils iraient pas. C'est-à-dire qu'en fait, la culture, c'est particulier. C'est que quand vous... Ça rejoint les artistes, hein.
Oui.
Ceux qui vont au conservatoire de musique, c'est ceux qui connaissent le chemin, en fait. C'est aussi la famille qui connaît le chemin et qui
dit,
tu vas faire du piano ou du violoncelle, qu'est-ce que tu veux faire? Ou du dessin, ou de la sculpture, ou de la pâte, de la poterie, ou je sais pas quoi. Mais en fait, ça veut dire que la culture se transmet par une pratique et par une familiarisation des individus vers les structures culturelles. Et plus c'est tôt, mieux le pli est pris, en fait. Ensuite, c'est plus complexe. Et curieusement, ça rejoint le projet de Flaubert qui disait il faut exhorter le bourgeois, il faut qu'il y ait des choses à faire, et seul le bourgeois profite de ça.
Oui.
Et peut-être que parce que le bourgeois profite de ça, il y aura des pauvres qui profiteront de la charrette ou de la voiture ou du chemin. Et c'est exactement ce qui se passe. Le projet d'Artaud, d'une certaine manière, qui était de descendre le prix des places, que ça soit le prix des bouquins ou le prix des places de théâtre, ça fait pas venir davantage de public. Ça ne fait que augmenter ceux qui ont l'habitude d'acheter des bouquins ou d'aller au théâtre.
Ils y vont plus souvent?
Ils y vont plus souvent. C'est ça que disent les chiffres de la culture.
Ah oui, d'accord, je ne savais pas.
Et au fond, c'est parce que la construction d'une pratique bourgeoise, en fait, de la culture, fait que ça existe. Et c'est pour ça que c'est important. Et donc, les artistes aussi, ils cheminent là-dedans. Ils cheminent comme une réponse à une proposition culturelle. Les photographes qui exposent, les peintres qui exposent, les musiciens qui jouent à tel endroit... joue aussi parce qu'on leur a montré le chemin à un moment. Et qu'eux s'installent là-dedans parce qu'ils ont une carte sociale à y jouer.
Et alors dans tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui se dégage de l'artiste au rapport à l'argent?
Je ne sais pas répondre à cette question, mais les artistes, en tout cas, beaucoup qu'on reçoit, dans le cadre du diagnostic de leur projet professionnel, ils touchent pas à l'argent. C'est-à-dire qu'ils disent, si j'en suis là, c'est que je ne sais pas me vendre, je sais pas vendre mes trucs. Il y a une modification des représentations à faire là.
Ouais, exactement. Ouais.
Parce que en fait, il y a un sociologue qui s'appelle Jean-Marc Lovarato, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « La mesure de l'art ». Et dans ce bouquin, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'il propose trois vulgates, trois manières de penser le prix de l'art. Et il le pense de manière très, je dirais, sociologique, en fait. Il dit, ben, soit il y a un marché pour ça, c'est la vulgate marchande, il y a un marché pour ça, donc il y a un acheteur pour ça, donc vous vendez ce truc-là. Et donc, comme il y a un marché, ben, il y aura un acheteur.
Ouais.
Donc vous posez le prix que vous voulez.
Ok.
Mais il faut que ça rentre aussi dans la poche de. Enfin, dans le fric qui est dans la poche de celui qui est prêt à l'acheter. Mais il y a un marché pour ça, donc. Moi, je suis pas. D'ailleurs, il y a certains artistes ici qui disent oh, ben moi, la photo, je la vends 20 euros, hein, 20, 30 euros, hein, pas plus. Hein, parce que. Puis il y en a d'autres qui disent moi, ma photo, je la vends 250 euros. Enfin, c'est sans commune mesure, en fait.
Oui, c'est ça, exactement.
Il y en a,
ouais.
Tu sais pas pourquoi, il y en a un qui dit bah, moi, j'ose. Puis. C'est juste parce qu'il y a un marché pour ça. Ils ont entendu qu'il y avait, pour ce type de photo, dans ce type de format, dans ce type de thématique, il y avait un marché pour ça. Et donc,
ouais, d'accord. Disons,
donc c'est aussi, d'une certaine manière, ça rejoint une espèce de démarche mimétique. Bref, il y a une vulgate marchande qui dit, s'il y a un marché pour ça, ben, il y a un prix qui va avec. Il y a une autre vulgate qui est celle de la vulgate industrielle qui consiste à donner un prix à l'heure.
Ouais.
Et à dire je fais tant de temps pour faire cette œuvre. Genre donc ça vaut tant, comme ouais. La femme de ménage en gros, ou comme l'avocat. Il y a dans cette vulgate l'idée de se dire je vaux un prix, donc je vaux le SMIC ou je vaux ouais. plus, et puis je prends un certain temps à faire ce truc-là, et donc je multiplie par le nombre d'heures. Et ça donne un prix à mon œuvre. Et puis la troisième vulgate qui est repérée, c'est la vulgate du don. Donc c'est l'autre qui vous dit « je te donne ça ». Et là, on entre dans un échange d'échange de marchandises où
oui, okay.
je te donne ma photo, je te joue un morceau, bref, on échange.
Je te donne trois poulets.
Ou je te donne, je te donne un chameau, je te donne trois poulets, ou je te donne ce que j'ai sur moi. Et si j'ai 80 euros sur moi ou 20 euros sur moi, ben je te donne. Et il y a un défaut aussi là-dedans, c'est je te donne tout ce que j'ai. Et je te donne tout ce que j'ai, ça veut dire je te donne tout ce que j'ai, c'est-à-dire trois cailloux et un sachet de sucre. Tu prends ou tu prends pas. Et généralement, ça fausse le travail aussi. Donc, est-ce que l'artiste qui vend quelque chose, qui vend sa production, est capable de donner un prix, il faut qu'il donne un prix à son œuvre.
Ouais.
Parce que sinon il reste amateur, ce qui est très bien en soi.
Oui, oui, exactement.
Mais dès lors qu'il ne veut pas vivre de ça, enfin, c'est foutu. Il n'y a que lui qui peut dire « ça vaut tant » ou « je la mets là sur le marché ». Parce qu'il a déjà fait la moitié du chemin. Il dit « ça, c'est une œuvre.
Oui.
Je te la présente ». Combien c'est ? Ah, je sais pas. Bah, ouais, mais si tu sais pas, c'est pas la moitié du truc. Donc il faudrait qu'il puisse s'assumer jusqu'au bout et dans une autodirection, dans un principe d'autodirection, dans une démarche d'autodirection, il faut qu'il aille aussi au-devant de combien je vaux.
Je crois que j'ai décidé d'être artiste, enfin vraiment décidé, pris la décision devant une œuvre, j'avais 5 ans. Alors après, amateur professionnel, c'était pas le but à cet âge-là. Mais je pense que pendant une dizaine d'années, là où j'ai commencé à me dire « bon, bah, je vais aux Beaux-Arts, je me mets en mode pro sur ce truc-là », j'ai pesé le pour et le contre en finissant par me dire « de toute façon, je gagnerai pas de sous ». Et à un moment donné, j'ai lâché là-dessus, quoi. Alors, tu vois, je me suis dit « bon, ok, j'y vais quand même », mais je m'étais préparée à pas tellement gagner de sous. Ça, c'est vraiment un travail que je suis en train de refaire depuis 5 ans, bah, marche arrière, quoi.
C'est pas possible, la marche arrière. Dans le diagnostic du projet, il faut pas rechercher la marche arrière.
Ouais.
Il faut juste se dire, mon esprit évolue, ma vie évolue. Dorénavant, je fais payer ce que je fais.
Ouais.
Donc, c'est la prise en compte du présent dans ce qu'il est aussi chargé de nouvelles techniques, de nouvelles thématiques, de nouveaux réseaux aussi, et qui dit ah, ça, je fais ça. Et je pense aussi que être artiste, c'est une pratique. C'est une pratique, être artiste.
Oui.
Par contre, je suis musicien, c'est un métier, en fait. Donc, dès lors que vous êtes musicien ou photographe, c'est comment vous gagnez votre vie avec ça. Comme le boulanger, en fait.
Mmh.
Le boulanger, il dit pas, je fais de la boulange, quoi. Ah non, il est boulanger. S'il est boulanger, il fait du pain. S'il fait du pain, il est payé pour ça. Et donc, il vend sa baguette, il vend son temps. C'est ça qui se passe.
Mmh.
S'il est subventionné pour autre chose, s'il est, je sais pas, ambulancier, veilleur de nuit ou je sais pas quoi à côté, alors il peut se permettre de dire, je sais pas combien ça vaut, parce que c'est pas avec ça qu'il va en vivre. C'est pas avec ça qu'il va bouffer, en fait. Mais dès lors qu'il rentre dans le principe d'une réalité économique, alors il faut qu'il dise combien ça vaut. Et il y a plein de choses autour de nous aussi qui viennent modifier le coût, le prix des choses. Où est-ce qu'on va s'acheter nos fringues? Dans une friperie? Où on va négocier? On va dire aux puces?
Ouais.
Moi, je me souviens, il y a une époque, on allait chercher les chemises de grand-père parce que c'était à la mode. Mais avant, c'était les treillis de l'armée, les rebuts, enfin les trucs. Tout a un coût, en fait, un prix, y compris notre production. Il y a un autre truc chez les artistes, c'est qu'il y a ceux qui sont dans l'art de la projection et ceux qui sont dans l'art de la représentation. C'est-à-dire ceux qui mettent, placent l'œuvre entre eux et le public. C'est-à-dire ceux qui vendent de la musique, un disque, un livre, un tableau, une photo, tous ceux qui mettent l'œuvre entre l'un et l'autre. Et donc, on peut parler de l'œuvre, c'est plus facile à la limite.
On n'est pas collé à l'œuvre.
Voilà, on n'est pas l'œuvre.
On n'est pas l'œuvre.
Alors que l'art de la représentation, on est l'œuvre. Le danseur, c'est lui l'œuvre.
Ouais.
Le comédien, l'acteur, c'est lui l'œuvre. Donc, quand vous lui dites « Don Juan, j'aime pas », ou la pièce de théâtre qu'ils sont en train de jouer, en fait ils le prennent pour eux, c'est moi que t'aimes pas, en fait. C'est effectivement très difficile de se donner un prix à soi pour tel ou tel, enfin les acteurs y arrivent très bien, hein.
Oui,
on m'a appris un truc, c'est Florence qui m'a appris un truc, c'est que en Belgique il n'y a pas d'agent d'artiste.
Ah oui,
les agents sont ici, donc il y a de plus en plus d'artistes belges qui viennent ici chercher des agents. Parce que là-bas, en fait, c'est du proxénétisme déguisé, en fait. Je te vends.
Ok.
Donc c'est.
Mais c'est vrai que cette expression est quand même hyper étrange, quoi. Enfin, j'arrive pas à me vendre, mais c'est pas toi que tu vends, quoi. Même en tant que danseur. Et puis il y a peut-être aussi.
En tout cas, c'est un constat sociologique qu'on peut faire, c'est-à-dire dans la lecture qu'on a des artistes et de leur manière de passer de l'amateurisme.
Oui.
L'amateur au professionnel, ce qui se joue là, c'est rentrer dans un principe de réalité économique qui entraîne un nouveau principe de relation, principe de réalité de relationnel entre les individus. C'est-à-dire, je ne considère plus tout d'un coup toi comme une amie. Oui, le principe relationnel change.
Et du coup, c'est quoi les conseils que vous donneriez à un artiste qui se lance là?
Je lui dirais qu'il faut... Il y a deux choses. Soit c'est sa vocation, c'est-à-dire, s'il ne fait pas ça, il n'est plus équilibré psychiquement. Il se lamente, il est dépressif, il est mal dans ses pompes, il picole, il fume, enfin, je sais pas, il va mal, quoi.
Ouais.
Alors, il faut impérativement qu'il rentre dans cette pratique, parce que cette pratique l'équilibre. Elle lui donne de la responsabilité, de créativité, elle lui donne un certain lien avec le social, une existence sociale, c'est-à-dire moi je suis plus quelqu'un qui sait pas quoi foutre de ma vie, mais je suis peintre ou photographe ou musicien ou comédien. Donc sur le plan psychique, sur le plan de la vocation de l'individu, c'est important qu'il se réalise à travers ça. S'il veut en vivre, c'est-à-dire s'il veut dire c'est à travers ça que je vais gagner ma vie, alors il faut qu'ils construisent le projet d'un point de vue très réaliste. C'est-à-dire combien ça rapporte, quel statut juridique je donne à mon art, comment je l'abrite, comment je me rémunère, combien ça vaut. Bref, un homme d'affaires, quoi. Ou une femme d'affaires.
Et alors comment... alors là, je parle quand même plus spécifiquement des arts visuels. Comment on trouve son marché? Pas si simple, quoi, de savoir sur quel...
Oui, je comprends, mais il y a que celui. Comment vous trouvez une maison, vous? Ou un appart?
Bah, je commence par définir ce que je veux et puis.
Ah oui, donc vous voulez un deux pièces à 500 euros par mois, c'est ça? Vous
ouais.
êtes, vous pouvez le trouver dans le premier, deuxième arrondissement, c'est possible. Mais non, c'est des conneries.
Ouais.
Vous ne pouvez pas. Si vous regardez un tout petit peu le premier et le deuxième arrondissement, vous allez voir que ça n'existe pas.
Oui, bien sûr.
Un deux pièces à 500 euros par mois, 35 mètres carrés, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais vous, vous pouvez toujours dire, bah, je commence à décider ce que je veux.
Ouais.
Ouais, mais ce que je veux, sans avoir fait une étude de ce qui est de la réalité du marché, ça ne marche pas. Donc, il n'y a que la personne qui peut prendre en compte son environnement et dire, c'est là que je veux être.
Ouais.
Donc, délimiter, identifier qui sont ces environnements et qui sont ces acteurs dans cet environnement. Et je vais forcément venir troubler quelque chose puisque je veux m'y mettre. C'est un peu comme si le métro arrive, il est blindé, et vous voulez monter. Et les mecs dans le métro, ils sont pas d'accord. Hein.
Mmh.
Ah, casse-toi. On est déjà trop, c'est bourré, casse-toi.
Mmh.
Et pourtant, vous, vous voulez monter. Si vous voulez monter, c'est que vous voulez en être. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Moi, je pense que oui.
Faut juste trouver sa rame, quoi.
Faut trouver sa place, et trouver sa place, c'est prendre place. C'est donc apporter quelque chose de singulier à l'intérieur de ce monde. Si vous êtes infect, en disant « mais toi, t'as la gueule, pousse-toi !» Ou si vous êtes, si vous sortez une blague qui fait aller faire marrer, ils vont vous faire une place. Hein. Ils préfèrent vous plutôt que celui qui est pas sympa, hein. Celui qui va rentrer. Ils préfèrent vous qui sentez bon plutôt que l'autre qui pue. Hein. Enfin, vous voyez ce que je veux dire.
Ouais.
Donc, c'est comment vous prenez place vous aussi dans ce monde que vous avez identifié comme étant celui dans lequel vous voulez être. Et c'est par là que vous allez comprendre où est le marché. Où est le marché de ça? C'est quand vous allez identifier que soit vous apportez quelque chose qui existe, mais que vous vendez moins cher, plus cher, autrement, avec une couleur plus affirmée, ou une forme, ou bien parce que vous avez identifié que ça n'existe pas. Si vous réussissez à démontrer que ça n'existe pas et que ça répond à un besoin chez l'autre, ça va se vendre. Hein. Si vous voulez, vous dites, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. La condamine, c'est un produit nouveau. Vous développez un produit nouveau. Parce qu'en fait, les gens doivent développer aussi une nouvelle manière de s'enclencher dans leur réussite de leur projet. Et cette nouvelle manière de faire, ce nouveau fonctionnement, il vient de la prise en charge de sa propre trajectoire, de pilote de son propre parcours.
Mmh.
Et non plus ce qu'on fait depuis les années 60-80, c'est-à-dire, je fais un accompagnement pour les gens.
Bougez pas, c'est moi qui m'en occupe.
Mais ça ne marche pas.
Ouais.
Ça ne peut pas marcher. Mais par contre, je regarde, je ne peux pas citer de nom, mais il y a des structures, ils ne vendent que ce qu'ils savent faire. Si je sais faire de la peinture, je vous vends de la peinture.
Mmh.
Si je sais faire de la plomberie, je vous vends de la plomberie. Et en vous disant, il te manque ça. Mais c'est pas vrai, en fait. Et là, il me semble qu'on arrive à un nouveau système où le paradigme change. Et où, pour moi, le paradigme le plus adapté aujourd'hui, c'est celui d'arrêter cette hypocrisie et de dire, non, non, tu vas t'accompagner tout seul. Mais par contre, moi, je peux t'aiguiller à un moment ou à un autre. Tout comme un toubib dit, ah, là, les oreilles sont fragiles. Après, vous allez voir un mec, vous vous mettez des gouttes, ou je sais pas quoi, mais en tout cas, c'est vous qui décidez de... C'est moi qui décide de mon parcours.
Ouais, ouais, ouais.
Et c'est un peu le Corbusier, en fait, qui construit des maisons et qui dit comment tu vas vivre dans cette maison.
Oui, oui.
Vous voyez, c'est un peu... quand vous... C'est magnifique, hein. Moi, j'adore le... Mais quand vous regardez la dimension humaniste derrière ça, vous dites, ça, on me dit comment je dois vivre. Ah bon. Moi, j'aime pas trop, au fond. Quand je prends ma bagnole et que je conduis, j'aime bien que respecter le code de la route. J'aime bien que les autres la respectent aussi, le code de la route. Voilà, moins d'accidents. Mais dans le domaine de l'art, dans le domaine de ma production artistique, je préférerais qu'on me foute la paix, hein, et produire ce que moi j'ai envie de produire.
Ouais.
Alors est-ce que ça rentre dans un marché ? Est-ce que... Je pense que aussi, on n'a pas parlé de la posture juridique, enfin du statut juridique de l'activité, mais prendre l'habit aussi de l'entrepreneur, c'est aussi considérer les autres entrepreneurs comme des partenaires.
Oui.
Qui dans ce monde peut être mon partenaire ? Si les entreprises sont susceptibles de m'acheter, si les gens de l'entreprise sont susceptibles de m'acheter mon œuvre, alors il faut que je construise une clientèle à partir des gens qui bossent dans les entreprises. Mais si l'entreprise, par la loi de défiscalisation des bénéfices, peut acheter des œuvres d'art à partir de ces bénéfices défiscalisés, alors je dois faire la tournée des entreprises qui sont prêtes à mettre leur budget défiscalisé dans l'achat d'œuvres. Ça devient le patrimoine de l'entreprise, ça devient aussi une responsabilité des gens de l'entreprise à choisir quel artiste, quelle œuvre, pourquoi, au nom de mon entreprise, je place le pognon de l'entreprise là-dedans.
Parce que quand une entreprise, elle défiscalise, c'est l'argent défiscalisé qu'elles peuvent mettre dans l'art.
C'est-à-dire que s'ils défiscalisent, c'est pour payer moins d'impôts sur leurs revenus. Donc ils sont capables d'avoir une certaine somme d'argent, je crois que c'est entre 10 ou 15 000 euros, où tout d'un coup, ce bénéfice-là est défiscalisé, n'est pas compté dans les impôts. Est-ce que ça pourrait devenir aussi une démarche d'économie sociale ?
Non, on est pas mal financé avec les dons d'entreprise.
Ben oui, donc on pourrait aussi dire, je forme les gens de l'entreprise à acheter des œuvres d'art. Est-ce que je peux, moi ou vous, ou la condamine, réduire l'espace, le lien, l'écart qu'il peut y avoir entre les gens de l'entreprise et les artistes ? Alors, pas tous les artistes, parce qu'il y en a qui n'aiment pas le pognon. Enfin, vous voyez, on en revient au truc.
Ouais, tout à fait.
Bon, s'ils n'aiment pas le pognon, bah, qu'ils restent chez eux. Hein. Mais si tout d'un coup, la structure entreprise peut placer du fric et sait pourquoi elle le place, est-ce qu'on peut aussi, par ce phénomène-là, redonner une place à l'art ou à l'œuvre dans le contexte relationnel entre des gens qui sont de deux mondes différents, en fait.
Mm.
Là, il y a un enjeu social.
Oui, tout à fait. Ouais.
Voilà. Le problème de notre société, c'est qu'elle ne sait pas évaluer une production collective.
Mm.
Elle n'évalue que des gens. Elle n'évalue toujours que des gens. Entretien individuel, bilan de compétences individualisé, examen... Enfin, vous voyez, c'est toujours, je bosse au sein d'une organisation, mais c'est moi qu'on évalue, parce que ça, on sait faire. Donc,
ouais.
On est coincé dans un paradigme d'évaluation individuelle. Or, notre société est construite sur du collectif, comme l'orchestre,
ouais.
Comme l'équipe de rugby.
Ouais, c'est clair. Et puis en plus, les artistes qui s'en sortent le mieux, c'est ceux et celles qui se regroupent.
Oui, c'est plutôt ceux et celles qui ont conscience que sans regroupement, ça ne marchera pas.
Oui.
C'est plutôt ça. Il y a certains métiers où c'est compliqué. Hein. Pour les peintres, par exemple, c'est compliqué de retrouver le collectif pour le peintre. C'est plus compliqué. Mais c'est pourtant la réalité. Ça ne marche qu'avec un collectif. Les particuliers qui achètent, les galeristes qui exposent, les journalistes qui en parlent. Enfin, ça ne marche que...
Des artistes qui recommandent, même.
Ben oui. Nous vivons dans une société collective qui ne sait pas évaluer le collectif. Parce que je pense, en fait, que si un projet marche pas, c'est pas la personne qui est pas bonne, c'est que les circonstances, les conditions, la temporalité est pas. C'est comme si on traversait l'Atlantique, il n'y avait pas de vent. Avec un voilier, puis il n'y a pas de vent. Ou alors il y a trop de vent.
Ouais.
Et souvent, il y a un principe de personnalisation qui dit « Ah ouais, mon projet a foiré parce que je suis pas bon. Mon projet a réussi parce que je suis le meilleur.
Ouais. »
En fait, non. Le projet, il n'est jamais fait seul. Bon, voilà, vous réfléchirez.
Bah, super, merci beaucoup.
Merci à vous, en tout cas, d'être venu me questionner. Ça me flatte.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à le dire à l'interviewé dans ses réseaux sociaux. Je vais mettre les liens en description. Ça lui fera super plaisir. Ça permet de faire savoir que l'art, c'est les autres, est écouté. Et puis vous-même, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à faire des feedbacks, c'est hyper important pour moi. À proposer des invités aussi, ou des sujets qui vous intéressent. Et puis je ferai mon possible pour vous répondre et échanger avec vous. Si vous êtes artiste et que vous avez envie de nous rejoindre dans le collectif Pigeon et Hirondelle, n'hésitez pas à nous laisser un message sur Instagram ou sur Facebook, donc pigeon.hirondelle, le tout au pluriel, ou bien sur notre site www.pigeon-hirondelle.fr. On sera super content d'en parler avec vous, de vous présenter toutes nos actions et pourquoi pas de vous compter parmi nous. Si vous connaissez quelqu'un à qui ce podcast peut plaire, je vous invite évidemment à le partager sur les réseaux. Ça permet à de plus en plus de gens de connaître le podcast. Et puis moi, ça me fait du bien. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.